Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Il aura fallu l'assassinat de Jamal Khashoggi, cet éditorialiste saoudien, début octobre à Istanbul, pour qu'une vague d'indignation dans le monde occidental ranime le cauchemar de la guerre au Yémen. Une guerre qui, depuis 3 ans et demi, oppose l'Arabie saoudite et les Émirats aux rebelles houthis, soutenus par l'Iran, au prix de souffrances incalculables infligées aux populations. Une guerre qui prolonge les décennies d'instabilité politique, de lutte tribale dans ce pays, tout au sud de la péninsule arabique, que les Robins, jadis, dénommaient l'Arabie heureuse, tant ils en appréciaient les encens. 14 millions de gens aujourd'hui, la moitié de la population, sont au bord de la famine, un scénario d'apocalypse selon le responsable humanitaire des Nations Unies. Face au pouvoir saoudien ébranlé par l'affaire Khashoggi, le vice-président américain Mike Pence a réaffirmé ce matin même que ce meurtre ne resterait pas impuni. Washington, Londres et Paris font pression pour un arrêt des bombardements au Yémen et le début de négociations. Une trêve vient d'intervenir, une rencontre doit avoir lieu bientôt en Suède. Quelles sont les chances d'aboutir? L'aide humanitaire massive requise pour secourir ceux qui peuvent l'être encore est-elle suffisamment préparée? Comment les différents protagonistes du conflit vont-ils protéger leurs atouts, à commencer par l'Émirat d'Abu Dhabi, qui contrôle désormais plusieurs ports yéménites jusqu'à la Corne de l'Afrique, et donc la route maritime la plus névralgique du monde? Quelles conséquences pour MBS, le prince héritier saoudien, embourbé dans cette guerre et responsable de l'assassinat de Khashoggi, selon les conclusions de la CIA révélées ce matin même par le Washington Post? C'est ce que nous allons explorer grâce à vous. Bonjour Fatia Dazieni, vous êtes spécialiste de la péninsule arabique et chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Merci d'être avec nous par téléphone aussi, mais depuis Londres. Hélène Lackner, vous êtes spécialiste du Yémen, chercheuse associée au London Middle East Institute, avec nous à Paris, et je l'en remercie, Clément Terme, qui est chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, l'ISS. Aussi à Paris, Christophe Chabert, fondateur de mindmap.fr, qui est un site très intéressant dédié à la géopolitique par les cartes. Et enfin, à Beyrouth, par téléphone, Christine Beckerle, responsable du Yémen à l'organisation Human Rights Watch. Hélène Lackner, je commence avec vous. Vous avez vécu au Yémen, vous continuez de suivre de très près ce qui se passe dans ce très vaste pays avec des zones montagneuses, une zone côtière, un pays, encore une fois, la géographie très contrastée. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la situation sur le terrain? Et commençons par le port d'Hodeïda, qui est tout à fait à l'ouest du pays et qui est le seul port par lequel peuvent encore parvenir des aides humanitaires.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à votre programme. En ce qui concerne de la situation à Hodeïda, c'est le port principal. Il y a quand même encore d'autres ports qui fonctionnent, mais qui sont beaucoup plus éloignés des zones où sont les personnes qui ont le plus besoin d'assistance humanitaire. Bien que, comme nous allons certainement en parler plus tard, la plupart de la population du pays a besoin de nourriture importée. Mais les zones les plus nécessiteuses sont les plus proches du port de Hodeïda. Le port de Hodeïda a été sous la possibilité, enfin sous l'offensive de la coalition depuis déjà l'année dernière.
La coalition, ça veut dire la coalition saoudo-émirienne, comme on dit.
Oui, voilà. Saoudo-émirienne, plus les forces yéménites qui soutiennent le gouvernement internationalement reconnu du président Hadi.
Lequel est donc en exil, puisque ce sont les rebelles houthis qui contrôlent la capitale Sana'a.
Oui, Absolument. Bon. Et ces troupes, en fait, sont venues principalement du... Les troupes locales sont, viennent principalement du sud, et d'autre part, des troupes qui sont les... qui étaient celles de l'ancien président Saler, qui a été assassiné au mois de décembre l'année dernière par les Houthis. Mais donc, la situation à Hodeïda, on a eu une offensive très très grave qui a commencé cette année au mois de juin, qui a été ensuite interrompue pour permettre à l'envoyé spécial des Nations Unies, Martin Griffiths, d'essayer de trouver un accord. Et il avait atteint un accord qui en fait aurait été celui qu'ils avaient essayé de faire l'année dernière. L'accord était de transférer la gestion du port aux Nations Unies, et ça aurait permis aussi d'utiliser les fonds, les revenus du port, pour payer les salaires de plus de 1,2 million de personnel de l'État, principalement des personnels de santé et d'éducation.
Oui, mais ce plan n'a pas tenu.
Non. Justement, donc voilà, les Houthis qui avaient refusé ce plan l'année dernière l'ont accepté cette année. Et immédiatement, la coalition a réagi en disant non, 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 c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le port entier et la ville entière et le gouvernorat entier, et non seulement donné à la gestion des Nations Unies, mais rendu à la gestion de la coalition et du gouvernement de Hadi. Ce qui était évidemment quelque chose que les Houthis ne pouvaient pas accepter.
Donc c'est l'impasse, et ailleurs dans le pays, si vous pouvez nous synthétiser ça, c'est très difficile à la radio, et on n'a pas malheureusement les cartes de Christophe Chabert, mais par grande zone, qui contrôle quoi ?
Oui, je peux répondre à ça, mais je voudrais peut-être finir sur Hodeïda brièvement.
Allez-y.
Parce que la nouvelle offensive qui s'est arrêtée il y a 2 ou 3 jours, il semble qu'en fait, que ce qui va se passer, c'est que Martin Griffiths va essayer de renouveler cet accord.
Oui.
Et il est possible, il me semble, cette fois-ci, parce que les batailles autour de Hodeïda sont arrêtées depuis 2 jours, il est quand même possible que ceci a un effet à long terme, et ça, c'est suite à ce que vous avez dit à l'introduction, à l'assassinat de Khashoggi et d'autres éléments. Pour en venir à votre deuxième question, c'est vrai que l'absence de cartes ne facilite pas la conversation.
Bon, allons-y quand même.
Mais principalement, les Houthis contrôlent ce qu'on pourrait appeler une poche, qui est des zones montagneuses, qui commence à peu près à 10 kilomètres de la côte occidentale de la mer Rouge, c'est-à-dire que dès que les montagnes y commencent, et qui s'étend jusqu'à à peu près 60 kilomètres à l'est de Sanaa. Et du nord, à partir de la frontière saoudienne, enfin quelques kilomètres, parce que là c'est quand même une zone de militaire de front, jusqu'à à peu près, jusqu'à Taïz, parce que Taïz c'est aussi une zone de confrontation considérable.
D'accord, donc on comprend que ce qui reste le point névralgique, et là où va se jouer une négociation éventuelle en Suède dans quelques jours, c'est bien le port d'Hodeïda. Fatia Dazieni, vous êtes la grande spécialiste de l'Arabie saoudite. On se souvient que c'est en mars 2015 que le jeune prince héritier, il n'est pas encore prince héritier à ce moment-là, mais il est déjà ministre de la Défense, et il lance au Yémen cette guerre qu'il a nommée « tempête décisive ». On s'aperçoit 3 ans et demi après que, hélas, elle n'a rien. C'est certes une tempête atroce pour les gens sur place, mais elle n'a rien de décisif. C'est un bourbier. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, absolument. Bah, écoutez, on en conclut très vite de l'impréparation de ce jeune prince pour lancer cette guerre. D'ailleurs, à l'époque, celui qui était le prince héritier, Mohammed bin Nayef, et qui était l'homme des renseignements américains, et notamment de la CIA, puisque c'est celui qui a réussi à éradiquer Al-Qaïda au sein du royaume, et donc a pu, si vous voulez, mettre à un point d'exorde, si vous voulez, la coopération antiterroriste entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, lui était non pas contre le lancement de cette guerre, car je ne pense pas que MBS tout seul a décidé de lancer cette guerre, comme on le dit souvent, pour se projeter et se consolider comme l'homme fort du royaume. C'est pas aussi simple que ça.
Vous voulez dire que n'importe quel
dirigeant en fonction aurait lancé une guerre, mais pas de cette manière. D'ailleurs, Mohammed bin Nayef, à l'époque, avait réussi à convaincre le roi, donc le père de l'actuel jeune prince héritier, de ne surtout pas envoyer des troupes au sol, car le prince héritier actuel voulait le faire. Donc,
mais
l'impréparation et l'incompétence pour lancer cette guerre, et on le voit aujourd'hui cruellement au détriment de la population yéménite.
Mais pourquoi est-ce que cette guerre a fait l'objet, si je comprends bien, au sommet du pouvoir en 2015, d'un tel consensus?
Parce que pour le leadership saoudien, il était absolument inconcevable, c'était la ligne rouge, d'imaginer les Houthis, une sorte de cinquième colonne de l'Iran. Je me mets évidemment à la place du leadership al-Saoud, je ne veux pas dire que c'est vrai. Mais en tout cas, pour eux, cela représentait le fait que l'Iran était à la frontière de l'Arabie saoudite, et donc imaginer que des Houthis puissent comme ça contrôler le pouvoir central au Yémen, et donc être un relais de l'Iran dans la région. C'est comme ça que le leadership a convaincu la population de se lancer dans cette guerre.
Et au bout de 3 ans et demi, quel est le bilan du point de vue saoudien? C'est une guerre extrêmement coûteuse. Hein. J'ai lu quelque part que ça coûtait $1 milliard par mois. Enfin, ce n'est pas les fonds qui manquent en Arabie saoudite.
1 milliard et 6 milliards par mois.
Par mois?
Oui.
Mais ce qui est terrible surtout, c'est, encore une fois, la richesse saoudienne est telle que ce n'est pas l'enjeu premier, et la population, comme vous venez de le dire, a été convaincue que c'est une cause nationale sacrée, en quelque sorte. Mais en termes d'image, l'aviation saoudienne accusée de crimes de guerre...
Oui, il faut dire que c'est un tabou total de parler de la guerre au Yémen en Arabie saoudite. Hein. Moi, j'ai jamais entendu des Saoudiens spontanément parler de cela. Et au contraire, quand ils ont face à eux des observateurs extérieurs, ils sont en demande. Ils posent des questions parce qu'ils ne sont pas informés. Mmh. Donc il y a la rhétorique, il y a la propagande nationale qui dit que effectivement, et ça porte, parce que c'est vrai que les Houthis ont lancé des missiles sur le territoire saoudien et qu'il y a des infiltrations sur le territoire saoudien, mais il n'y a pas de débat sur le Yémen, bien sûr que non. Donc c'est très compliqué de savoir un peu ce que la population saoudienne pense. Seulement, il y a une chose qui m'avait frappée, c'était justement les dépenses de cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, au Royaume, les Saoudiens sont taxés. Oui. Donc de plus en plus, vous avez une réaction par rapport au coût de cette guerre.
Et, oui, il faut...
Fait, qu'elle n'a pas été décisive, comme l'avait prétendu le jeune Mohammed bin Salman il y a 3 ans et demi.
Oui, vous dites, là les Saoudiens payent des impôts, il faut quand même rappeler qu'ils n'en avaient jamais payé dans leur histoire, jusqu'aux réformes entreprises par ce jeune prince héritier. Clément Terme, bonjour. Vous êtes-vous spécialiste de l'Iran à l'IISS? Qui sont donc ces outils soutenus par Téhéran, et pourquoi Téhéran les soutient-il?
Alors, les Houthis font partie des Zaïdites, qui est une branche minoritaire du schisme, mais qui est assez distante du schisme pratiqué en Iran, qui consacre 12 imams. Donc, sur le plan théologique, il y a des divergences, et on dit d'ailleurs que ce groupe chiite du Yémen est plus proche des sunnites que des chiites iraniens. Donc, sur le plan de la pratique religieuse, il n'y avait pas vraiment de problème au Yémen, justement du fait de cette branche spécifique du schisme. Il y avait une grande proximité, les chiites priaient dans les mosquées sunnites, etc. C'est avec, si vous voulez, après la guerre d'Irak de 2003 et surtout après le déclenchement des printemps arabes en 2011, que les tensions sectaires aussi sont arrivées au Yémen. Alors l'Iran, au début de la guerre, donc de la première guerre des Houthis, surtout en 2009, selon les sources de l'ambassade des États-Unis à Sanaa, qu'on connaît par Wikileaks, l'Iran n'avait pas vraiment de rôle, alors qu'il y avait déjà un discours local, un discours saoudien sur cette implication massive de l'Iran aux côtés des Houthis. À cette époque-là, le rôle de l'Iran était très marginal. Ce qui s'est passé, c'est un peu comme une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que en déclenchant une guerre, les Houthis ont fait appel à l'Iran aussi. Donc ça, c'est un phénomène.
Les Houthis ont déclenché la guerre contre le pouvoir, donc à Sanaa, et qu'ils ont renversé, donc ils occupent la capitale et ils sont descendus vers le sud, donc vers le port d'Aden, qui est évidemment stratégique à plus d'un titre. Et c'est à ce moment-là que Téhéran a vu une opportunité inattendue.
Oui, parce qu'il y avait en même temps une escalade des tensions. Il faut rappeler le contexte. Début 2016, il y a l'assassinat du cheikh Al-Nimr, la rupture des relations diplomatiques entre
l'Iran. Alors, le cheikh Al-Nimr, donc en arabe, qui était donc dans la partie où il y a une population chiite, donc à l'est de l'Arabie Saoudite.
Dans la province orientale, oui. Et donc là, il y a l'attaque contre l'ambassade d'Arabie à Téhéran et la rupture des relations diplomatiques et l'augmentation des tensions et ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc le Yémen, pour l'Iran s'inscrit à ce moment-là dans une stratégie de défi vis-à-vis de la puissance régionale saoudienne soutenue par les États-Unis et l'Occident. Donc ça alimente, si vous voulez, l'ambition idéologique de l'Iran d'apparaître comme le défenseur des marginalisés. Et ça compense, si vous voulez, le rôle que l'Iran mène en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad. C'est-à-dire que l'Iran apparaît en Syrie comme le défenseur d'une dictature, alors qu'au Yémen, il défend une révolution, le changement de régime, etc. Donc ça permet aussi, sur le plan du soft power, d'utiliser cette guerre comme un moyen de communication et d'améliorer l'image de l'Iran dans la région.
Mais ce n'est pas une priorité. Ce soutien se manifeste sous quelle forme ? C'est un soutien direct ?
Alors il y a la formation par exemple du leader houthi qui a fait ses études religieuses à Qom, donc dans la ville religieuse iranienne. Donc il y a une influence idéologique, il y a des liens religieux qui se sont accrus. Il y a aussi un soutien, un transfert de technologie. Selon le panel des experts des Nations Unies, il y aurait des technologies, notamment de missiles, même qui datent des années 70, de l'époque soviétique, mais quand même qui ont été transmis aux Houthis.
Ce qui a permis aux Houthis de bombarder, enfin d'envoyer des missiles, notamment sur l'aéroport de Riyad.
Voilà, mais ce qui est important à comprendre du point de vue de l'Iran, c'est que ce soutien aux Houthis n'est pas du tout de la même dimension que le soutien qu'on va pouvoir avoir en Syrie ou vis-à-vis du Hezbollah au Liban. Donc c'est sur le plan opérationnel, c'est géré par le Hezbollah libanais, c'est sous-traité par l'Iran. Donc au Liban.
C'est le Hezbollah libanais qui soutient.
Voilà, sur le plan de la formation technique, l'envoi d'ingénieurs, mais c'est marginal, je dirais, si vous voulez, par rapport au nombre d'armes présentes au Yémen. Les armes iraniennes sont vraiment de quantité minoritaire.
Et mais aussi, soutien logistique, les communications électroniques, etc. Ça, c'est le Hezbollah qui aide les Houthis.
Ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a un embargo, hein, il y a un blocus. Donc c'est très difficile pour l'Iran de faire parvenir aussi. Donc les missiles, selon le panel des experts des Nations Unies, seraient arrivés en pièces détachées et remontés ensuite sur le territoire du Yémen. Mais ce que je pense, c'est que c'est surtout le problème, c'est un soutien idéologique. Donc on voit que les Houthis sont anti-israéliens, anti-américains. Donc ils reprennent des slogans de l'ayatollah Khomeini. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit aussi dans la stratégie de l'Iran d'inscrire les printemps arabes dans la grille de lecture de la révolution islamique. C'est ce que l'Iran appelle le réveil islamique. Et donc là, on voit ce discours tourner à plein sur les organes de télé iraniens, etc. C'est pour ça qu'il y a cette insistance sur la question du Yémen, aussi dans le défi qui est lancé par l'Iran à l'Occident, puisque ça s'inscrit, si vous voulez, dans la volonté de l'Iran de renverser le statu quo régional et la domination de l'alliance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et comme il y a une crise humanitaire, c'est instrumentalisé par l'Iran pour lutter contre le soft power de l'Occident, de l'Arabie Saoudite, et pour montrer en fait que l'Occident a un double discours. Mais l'Iran en même temps aussi a ses propres limites, puisque, comme je l'ai dit, vis-à-vis de la Syrie, là on est à front renversé. Donc l'Iran aussi a ses contradictions. Il n'a pas soutenu la révolution en Syrie, l'Iran. Donc on voit aussi les contradictions iraniennes quand on compare les deux guerres civiles.
Christophe Chabert, je rappelle que vous êtes spécialisé dans l'utilisation de cartes pour expliquer des situations compliquées sur le plan géopolitique, et Dieu sait si c'est le cas s'agissant du Yémen, car le Yémen est en proie à toutes sortes de convulsions depuis des décennies.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis la réunification du pays en 1990, le pays n'a pas connu d'épisode de paix.
Il y avait donc deux Yémen.
Il y avait deux Yémen, une partie sud qui s'est libérée, on va dire, du protectorat britannique dans les années 60 et qui a viré sur un régime socialiste marxiste. La partie nord, elle, a évolué d'une manière totalement différente. on va dire que l'imamat zaïdite régnait sur cette région nord du pays. On parle d'une monarchie absolue, hein, avec une dynastie d'imams, qui, elle, a été renversée, pareil, dans les années 60, par des forces républicaines qui ont mis en place une république. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, ce changement de régime brutal, et nous, Français, on sait que le passage d'une monarchie à une république n'a pas été forcément simple, ça n'a pas été simple non,
mais
non plus
pour notre mémoire est plus lointaine.
Notre mémoire est plus lointaine. Donc ça permet aussi de se dire que sur le temps qu'on étudie aujourd'hui du Yémen, d'une cinquantaine d'années, on comprend la situation du pays. La république yéménite a voulu asseoir son pouvoir, forcément, par rapport à la monarchie. Donc elle a ostraciser, stigmatiser les anciennes élites du pays qui faisaient partie de cette monarchie zaïdite. À la place, elles se sont appuyées sur les tribus du nord du Yémen, de ces hauts plateaux, en mettant en place tout un système de clientèle. Donc on comprend effectivement que c'est ce remplacement d'élite aujourd'hui que paye le pays. Quand Salé est arrivé au pouvoir en 78...
Le président qui a été assassiné.
Exactement. Salé était président de la République arabe du Yémen, donc cette partie nord, et ensuite est devenu président de la République du Yémen unifiée à partir de 90. Salé n'a fait qu'exacerber les tensions, les rivalités justement entre ces tribus qui seraient finalement les tribus légitimes, les vrais yéménites, et cette ancienne élite hachémite, finalement, qui a été ostracisée, vue comme les ennemis venus de l'étranger.
Il faut voir aussi que c'est une culture singulière, le Yémen, avec des populations qui sont, qui sont habituées à mâcher du khat. Le khat, c'est cette herbe à vertu psychotrope, et c'est très frappant quand on y va. Le pays est splendide, il est très très difficile, sinon impossible d'accès aux étrangers depuis avant cette guerre, il y a 3 ans et demi, tant les luttes tribales provoquaient toutes sortes d'enlèvements et de troubles. Néanmoins, cette consommation du khat imprime aussi un rythme singulier à la vie de ce pays.
Effectivement, le Yémen, de toute manière, est singulier dans la péninsule arabique. Hein. Si on regarde géographiquement, je me permets de revenir sur ça. On a parlé des hauts plateaux. C'est la seule région d'Arabie qui est baignée par des pluies. On a pu développer une agriculture singulière. On a pu, si vous voulez, adopter un mode de vie sédentaire, ce qui est différent du mode de vie nomade, bédouin, qui est typique dans la péninsule arabique. Et effectivement, cette agriculture a permis aux populations de se poser, de s'organiser en village, en ville, importante, et donc d'avoir un mode de vie qui est totalement différent du reste de la péninsule.
Retournons à Londres, vous rejoindre Hélène Lackner. Vous avez vécu plusieurs années au Yémen. Aujourd'hui, jusqu'à quel point est-ce que la crise économique, le fait que le gouvernement reconnu par la communauté internationale a cessé de payer les fonctionnaires depuis très longtemps, il y a pratiquement une arme économique aussi qui est utilisée contre la population.
Oui, absolument. En fait, il faut reconnaître que quand on parle actuellement du pays sur le point de la famine et de 14 millions de personnes qui risquent de mourir dans les mois qui viennent, c'est à la suite d'un nombre de facteurs. Et les bombardements saoudiens sont un des facteurs, mais en fait, la plupart des gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la nourriture importée. Et il faut ajouter que, justement, il n'y a pas assez de nourriture qui arrive, donc les prix augmentent. Et en plus de ça, le rial yéménite s'est complètement écroulé. Il a baissé énormément depuis le début de la guerre en 2015, mais maintenant, dans les 2-3 derniers mois, il a perdu plus de 60% de sa valeur en une période de quelques semaines. Le rial, qui était à 215 rials pour le dollar en 2015, est monté jusqu'à 820 et actuellement est à peu près 700. Donc on a une combinaison de situations où la population ne peut pas se nourrir parce que, bien que ce soit une région agricole, comme vient de le dire la personne précédente,
oui,
les cultures ne sont absolument insuffisantes à nourrir la population entière, principalement parce que les champs sont très petits, les étendues sont, agricoles sont très petites, et la population a plus ou moins triplé depuis l'unification en 1990. Donc il n'y a pas les moyens de survivre localement sans nourriture importée, c'est pratiquement impossible. Donc le financement, sans les moyens financiers de pouvoir acheter de la nourriture, dont les prix ont naturellement énormément augmenté suite d'abord à la dévaluation du réel, ouais, et au manque d'importation, c'est le manque d'argent qui principalement augmente la malnutrition et nous amène à la situation où les enfants et les adultes meurent tout le temps. Et je voudrais ajouter un petit point parce que
allez-y,
c'est quelque chose dont on parle rarement. C'est-à-dire que, bon, maintenant on parle de famine au Yémen, mais pendant 2 ou 3 ans, on n'en a pas parlé. Il y avait quand même une situation où 50% de la population, ou plus de 50% de la population, était au-dessous du niveau de la pauvreté avant que la guerre ne commence. Et on a une situation où quand les gens au Yémen sont sur le point de mourir de faim, littéralement, ils ne vont pas sur les routes se précipiter. Les enfants que nous voyons mourir sur nos télévisions aujourd'hui, ce sont les rares enfants dont les parents ont espéré et ont les moyens de les amener à l'hôpital. La plupart des familles, quand leur situation est totalement désespérée, selon la culture yéménite, rentrent chez eux et ferment les portes.
Ouais.
Donc il y a des centaines et probablement des milliers de personnes qui sont déjà mortes sans que personne ne le sache à l'extérieur, sans que cela ne produise le scandale que nous avons aujourd'hui. Bon, on peut remercier le scandale parce que le scandale au moins donne une attention au Yémen que certains d'entre nous, je pense que beaucoup d'entre nous qui sont dans votre conversation actuellement, ont passé énormément de temps à essayer de rendre le monde conscient de ce qui se passe au Yémen, du désastre dans le pays.
Et depuis des années. Allons à Beyrouth maintenant, vous rejoindre Christine Beckerle. Bonjour, vous travaillez à Human Rights Watch, qui est donc une ONG dont le travail considérable sur les terrains aide à comprendre ces situations confuses. Selon vous, est-ce que la mobilisation humanitaire est suffisante aujourd'hui pour faire face à la situation catastrophique qui sévit au Yémen depuis des années, aggravée bien sûr par cette guerre depuis 3 ans et demi.
Je crois que le travail des organisations humanitaires est extrêmement important, mais n'est pas suffisant pour pouvoir faire face à la gravité de la crise qui se produit actuellement au Yémen. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une crise humanitaire, c'est aussi une crise des droits humains. Et si on ne s'occupe pas de la seconde crise, on ne peut pas se tourner vers la première crise non plus.
Et alors, comment faudrait-il s'en occuper ? Parce que la crise des droits humains, elle est franchement, dans cette partie du monde, générale.
Je crois que la France a un rôle important à jouer ici. Parce que une des choses qui pourraient être faites, c'est pourrait s'adresser aux parties au conflit de la même manière que d'autres pays du monde parlent à ces pays belligérants pour faire cesser les abus des droits humains.
Est-ce que c'est le cas des États-Unis, par exemple, qui est le premier fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui sont donc impliqués dans la coalition?
Oui, mais on a vu cette semaine, au Congrès américain, un pas en avant important pour restreindre la fourniture d'armes à l'Arabie Saoudite.
Et
vous avez vu qu'il y a une poussée pour véritablement une responsabilisation de ce que l'on voit sur le terrain.
Mais on a entendu, pardon, je vous interromps, le vice-président américain Mike Pence expliquer à la suite des révélations du Washington Post, on le rappelle, c'est le quotidien pour lequel écrivait Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné début octobre à Istanbul, Donc, le Washington Post révèle la nuit dernière les conclusions de la CIA qui dit oui, bien sûr, il n'y a pas de preuves formelles, mais le prince héritier saoudien est impliqué directement dans ces assassinats. Et Mike Pence, le vice-président, dit le meurtre ne restera pas impuni, mais notre relation avec l'Arabie saoudite reste évidemment fondamentale. Donc, pour en revenir... Christine Beckerle, à la situation sur le plan humanitaire et notamment dans le port d'Odeida, dont il faut rappeler est donc le poumon en quelque sorte, le seul endroit par lequel l'aide humanitaire peut encore parvenir en quantités importantes aux populations du Yémen. Selon vous, sur le plan humanitaire, qu'est-ce qui devrait être fait par les Occidentaux?
La France a une occasion. Ce lundi, le Royaume-Uni a dit qu'elle appliquerait la résolution des Nations Unies, qu'en fait, elle présenterait une résolution aux Nations Unies.
Et
cette résolution porte sur la situation des droits humains et principalement sur Odeida. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce que nous voulons voir du côté de la France, c'est que les Français appuient cette résolution et qu'on puisse s'occuper aussi de la deuxième question aussi qui est importante, c'est celle de la responsabilité.
Eh bien, voilà.
Mais la chose évidente que la France peut faire maintenant, c'est de faire pression sur les membres de la coalition, principalement l'Arabie saoudite, de mettre fin aux abus et d'enquêter sur les abus qui ont déjà été commis.
Eh bien voilà, Christine Beckerle, voilà un message clairement...
La France est en retard par rapport aux autres États européens présentement.
Ça, je n'en suis pas sûre, parce que la Grande-Bretagne est restée très silencieuse jusqu'à la visite du ministre britannique des Affaires étrangères à Riyad il y a quelques jours, mais il est exact que tous les pays occidentaux, à commencer par l'administration Trump, sont très embarrassés par rapport à l'assassinat de Jamal Khashoggi et plus encore par rapport à cette guerre au Yémen. En tout cas, merci beaucoup Christine Beckerle et merci aussi pour ce message adressé vigoureusement aux autorités françaises et ce, à juste titre. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et précisément s'agissant des ventes d'armes aux belligérants, les pays occidentaux qui rivalisent d'ardeur pour vendre des armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats semblent toujours très surpris quand ces derniers s'en servent.
Oui, alors on voit effectivement, en tout cas, le débat sur l'arrêt des ventes d'armes prendre de l'ampleur. Cette semaine, aux États-Unis, la dernière initiative est venue du sénateur Rand Paul, qui a proposé de bloquer une vente d'armes à Bahreïn. Bahreïn qui fait partie de la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite au Yémen. Mais seulement 21 sénateurs ont voté en faveur de cet embargo, ce qui montre, explique le Washington Post, que si les législateurs américains sont de plus en plus désireux de punir l'Arabie saoudite après le meurtre de Jamal Khashoggi, ils ne sont pas prêts à mettre en jeu les relations des États-Unis avec les autres alliés de Riyad dans la région. D'autant, insiste le journal, que Bahreïn joue évidemment un rôle clé pour les États-Unis. Ils accueillent la 5e flotte de la marine américaine, un argument mis en avant pour rejeter la résolution, poursuit le Washington Post. Cette nouvelle tentative témoigne en tout cas de cette pression croissante sur le gouvernement américain impliqué dans la guerre au Yémen. En Europe, le débat est lui aussi très animé. Mercredi dernier, les eurodéputés ont voté en faveur d'un meilleur contrôle des exportations d'armes. Au Yémen, les armes européennes sont fondamentalement responsables de la guerre sur place, a même expliqué l'eurodéputée allemande Sabine Lösing, dont les propos sont repris par le site d'information Euractiv. Les eurodéputés ont d'ailleurs félicité Berlin et La Haye, qui viennent de mettre un terme à leurs exportations d'armes à destination de l'Arabie saoudite, ajoute le site bruxellois. Alors il faut préciser que la Norvège et la Suisse ont elles aussi suspendu leur vente d'armes. En Autriche, la ministre des Affaires étrangères appelle à un embargo en expliquant dans le journal allemand Die Welt, la terrible guerre au Yémen et la crise du Qatar devraient nous conduire à agir, enfin, d'une manière unifiée en tant qu'Union européenne vis-à-vis de l'Arabie saoudite.
Et la France dans tout ça ?
Alors, c'est la question évidemment de l'embargo. On sait que la France joue un rôle très important dans les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, puisque si les États-Unis représentent plus de la moitié des ventes d'armes, la France a vendu pour près de 11 milliards d'euros au cours des 10 dernières années, selon les chiffres officiels français. Alors, cette dimension économique est évidemment au cœur du débat sur les ventes d'armes. Selon, par exemple, Marc Pirini, qui est chercheur qu'on a déjà reçu évidemment ici, qui est chercheur auprès de Carnegie Europe et qui a été interrogé par le site d'Al Jazeera, la question d'un embargo européen reste très compliquée, non seulement parce qu'il impliquerait un grand nombre de pays, mais surtout à cause de cette position américaine qui consiste à considérer les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite comme une affaire de concurrence commerciale. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, explique Marc Pirini, qu'étant donné l'hostilité de Donald Trump à l'égard de l'Union européenne sur ces questions commerciales, s'il devait y avoir un embargo européen, celui-ci serait certainement utilisé par le président américain à son avantage. Et de ce point de vue, Donald Trump n'a pas d'état d'âme quand il faut choisir entre les incitations économiques et les abus des droits de l'homme.
France Culture. Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Fatia Dazieni, merci d'être avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris et spécialiste de l'Arabie saoudite. Les révélations du Washington Post la nuit dernière confirmant ce qu'on a deviné depuis le début, c'est-à-dire qu'il est impensable, étant donné la concentration des pouvoirs au sommet en Arabie saoudite, c'est-à-dire entre les mains du jeune prince héritier, donc la responsabilité du jeune prince, même s'il n'y a aucune preuve formelle à lire le Washington Post. Est-ce que cela veut dire que l'administration Trump est très gênée aux entournures? Puisque le vice-président Mike Pence a néanmoins répété qu'il n'était pas question de remettre en cause cette alliance stratégique avec Riyad.
Ah oui, c'est très clair. Hein. Le président Trump est sous pression parce que c'est l'allié fondamental du prince héritier. Hein. Personne ne remet en cause, je pense, aux États-Unis l'alliance avec le royaume d'Arabie Saoudite. Simplement, c'est vrai que la pression qui est exercée via les déclarations de la CIA, par exemple, sur le prince héritier, sont extrêmement profondes. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte de bras de fer qui se joue entre, effectivement, l'option de la CIA, qui n'a jamais caché son hostilité au fait que le prince héritier soit l'homme fort de Riyad, parce que eux, leur candidat était l'ancien prince héritier légitime qui a été évincé suite à la révolution de palais qui a eu lieu le 22 juin 2017 et où le roi Salman a donc saisi l'occasion pour choisir son héritier, donc son dauphin, un de ses dix fils, donc Mohammed bin Salman.
Néanmoins, on a vu que, c'est le paradoxe absolu de cette histoire. La guerre au Yémen, qui aurait dû susciter une indignation depuis longtemps en Occident, même si on voit à quel point nos opinions publiques sont de plus en plus concentrées sur nos propres problèmes, néanmoins, par ricochet, le Congrès américain d'abord s'intéresse maintenant à cette guerre au Yémen, et notamment sur le plan bipartisan, y compris des sénateurs républicains très influents, qui disent l'Arabie saoudite est peut-être notre allié, mais on va les empêcher désormais d'agir ainsi au Yémen. Et on a appris la semaine dernière qu'il n'était plus question que les Américains ravitaillent en vol les chasseurs saoudiens, même si, d'après ce que j'ai lu quelque part, ça ne représente qu'un cinquième de leur mission. Donc ça ne les empêche pas de continuer à bombarder s'ils décident de le faire.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et comme le disait tout à l'heure Hélène Lackner depuis Londres, il est vrai qu'il y a aussi quelque part une faute morale de l'Occident par rapport à cette guerre au Yémen. Parce que finalement, la réaction très forte aujourd'hui et les pressions extrêmement fortes qui s'exercent sur la coalition sont le fait de l'assassinat de ce journaliste, finalement, qui, en plus de ça, au départ du lancement de la guerre, était en faveur de cette guerre au Yémen. Hein. Donc c'est assez paradoxal, et il est vrai qu'aujourd'hui, enfin l'essentiel, c'est que finalement, cette affaire fasse que les pressions sont telles qu'il y ait un début de solution de crise et non pas de fin complète du conflit, parce que là, on s'est concentré sur Hodeïda, mais vous avez également la situation au Sud-Yémen qui est très différente.
Alors justement, on n'a pas encore parlé, Fatia Dajaneni, d'un protagoniste central dans cette affaire qui est le fameux MBZ, donc c'est pas MBS le saoudien, c'est MBZ, l'émir d'Abu Dhabi.
Le prince héritier.
Le prince héritier d'Abu Dhabi, pardonnez-moi, et qui lui a mis des troupes au sol et qui a acquis, qui a conquis des gains territoriaux tout à fait importants.
Alors moi je considère que le principal instigateur est celui qui contrôle un petit peu les aléas de cette guerre, c'est Mohammed bin Zayed. C'est un général qui a construit une armée extrêmement sophistiquée depuis les années 90.
À tel point qu'on surnomme Abu Dhabi la petite Sparte.
Absolument, c'est général Matisse qui a surnommé cette armée extrêmement bien équipée, plutôt bien entraînée. Bon, il faut savoir que au sol, ce sont surtout des mercenaires hein, qui sont à la solde d'Abu Dhabi, mais il est vrai que contrairement à Riyad, Abu Dhabi a mis des troupes au sol et d'ailleurs on dit que plus d'une centaine de militaires émiratis sont morts, sachant que ce pays ne compte que 900 000 ressortissants sur les 10 millions et demi d'habitants. Mm-hmm. C'est énorme. Et il faut savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, là aussi, il y a une chape de plomb. Il n'y a absolument pas de débat sur cette guerre, mais que les Émirats du Nord, qui fournissent l'essentiel des troupes de cette armée émiratie, payent le prix très fort, si vous voulez, de cette guerre.
MBZ, donc le prince héritier d'Abu Dhabi, sera à Paris mardi. Est-ce que vous pensez que les autorités françaises vont tenter de faire pression, comme le souhaitait avec vigueur Christine Beckerley de Human Rights Watch il y a quelques minutes?
Il est évident que les autorités françaises vont évoquer la question du Yémen, bien entendu. Faire pression, je ne sais pas, mais en tout cas discuter de manière très franche et directe avec, et ce n'est pas la première fois, hein, avec l'homme fort d'Abu Dhabi, d'autant que on voit ce prince héritier qui est extrêmement hostile aux frères musulmans a reçu les deux principaux leaders du parti Islah du Yémen à Abu Dhabi.
Alors là,
quand même une inflexion, un changement, non pas que le prince héritier est en train de changer de portage, mais il est sous pression. Parce que c'est l'allié fondamental de Mohammed bin Salman. Donc il a absolument pour obligation d'essayer de trouver une issue à cette crise, puisque les alliés occidentaux font tous pression pour que l'on négocie et qu'on sorte de ce conflit.
Et oui, et c'est d'autant plus remarquable qu'il faut rappeler quand même que l'Organisation des Frères musulmans a été déclarée organisation terroriste, autant par l'Arabie saoudite que par les Émirats. Clément Terme, spécialiste de l'Iran, ce qui est singulier dans cette guerre du Yémen, c'est qu'au fond, pour l'Iran, c'est une manière d'empoisonner la vie, si j'ose dire, des autorités aussi bien émiriennes que saoudiennes, et ça ne coûte pas très cher à Téhéran.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé du coût de la guerre pour l'Arabie saoudite par mois, entre 1 et 7 milliards. Pour l'Iran, le coût du soutien à ce qu'on appelle les proxys, donc les groupes non étatiques alliés de l'Iran dans la région, selon les chiffres américains, le Hezbollah libanais, donc qui gère aussi les opérations au Yémen, c'est 700 millions d'euros par an, donc pas par mois, et le Hamas palestinien, c'est 100 millions d'euros par an. Donc on voit que les budgets sont totalement sans rapport avec les budgets saoudiens, et même le budget de la défense iranien, selon l'ISS, la dernière statistique, malgré la dévaluation du rial, donc la monnaie iranienne qui a chuté, on est aux alentours de 20 milliards de dollars par an, le budget de la défense de l'Iran. Donc l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup plus, hein, c'est 3-4 fois plus. Donc il n'y a pas de proportion. Et c'est d'ailleurs très intéressant quand on analyse la nouvelle stratégie américaine dans la région, qui est de dire finalement, on va sanctionner l'Iran, on va faire un embargo contre l'Iran pour que l'Iran cesse son soutien à ces groupes dans la région.
Y compris, et mentionné spécifiquement, voilà.
Voilà, ça fait partie du discours américain et du discours saoudien et du discours israélien, comme quoi l'Iran est la cause de tous les problèmes dans la région. Et on voit que pas du tout, puisque finalement la rationalité économique de la politique régionale iranienne n'existe pas. C'est une politique idéologique. Donc d'un côté...
Mais ça c'est autrement important aussi. On ne peut pas nier que l'Iran tienne la Syrie, l'Irak et, à travers le Hezbollah, une bonne partie du Liban quand même.
Oui, le Liban, c'est le seul succès de l'exportation de la révolution iranienne de l'Ayatollah Khomeini, puisque le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, suit le guide suprême iranien sur le plan religieux. Mais il faut pas. Le problème de la diplomatie américaine, c'est d'homogénéiser le soutien à tous ces groupes, alors que c'est très différent. Le cas des Houthis n'a rien à voir sur le plan religieux, le lien religieux n'a rien à voir avec le cas du Hezbollah libanais. Et surtout, c'est pas une politique économique. Donc dire qu'on va faire une pression économique pour faire changer la politique de l'Iran, c'est ridicule. Parce que, en fait, c'est la stratégie est anti-économique. Parce que pour les Iraniens, pour la population, c'est à cause de cette politique régionale qu'on a toutes les souffrances économiques à l'intérieur de l'Iran. Parce que c'est la politique régionale de l'Iran qui justifie les sanctions américaines. Donc si la rationalité économique prédominait, l'Iran changerait sa politique régionale dès demain, parce qu'il se focaliserait sur le développement économique du pays. Ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Fatia, c'est qu'on a aussi ces discussions en Arabie, le coût de la guerre. Et on a aussi ces discussions en Iran, le coût de la guerre. Et les deux leaders, donc président Rouhani d'un côté et MBS de l'autre, ont vendu à leur population la priorité donnée au développement économique par rapport aux intérêts sécuritaires. Et à la fois la guerre de Syrie pour l'Iran et la guerre du Yémen pour l'Arabie montrent que les autorités font le contraire, qu'elles ont dans un schéma sécuritaire de paranoïa, de menaces existentielles, et l'Iran perçoit cette menace de l'Arabie. L'attentat à Arvaz, qui a eu lieu de Daesh récemment...
Donc à l'ouest de l'Iran.
Voilà, à frontière avec l'Irak.
Revendiqué par Daesh. Hein.
Exactement. Ouais. Et l'Iran accuse les télés saoudiennes en persan d'avoir joué un rôle, accuse l'Arabie de financer les Arabes d'Iran, depuis des années. Donc ce discours sécuritaire que l'Arabie développe sur le Yémen, l'Iran le développe pour ses minorités arabes, pour le soutien saoudien à des manifestations ou à une dislocation ethnique de l'Iran par une politique de changement de régime aujourd'hui qui est menée par l'Arabie saoudite contre l'Iran.
Il faut aussi rappeler que Al-Qaïda et l'État islamique ont des poches au Yémen même. L'un des frères Kouachi avait été entraîné au Yémen. Et Al-Qaïda porte un autre nom au Yémen. Hein.
Mais oui, une des conséquences de la guerre au Yémen, et ça, au-delà de la faute morale que ma collègue a mentionnée, de l'Occident, c'est que ça a renforcé les djihadistes au Yémen. C'est-à-dire que
donc il n'y a pas que les Houthis, hein. Il y a non, aussi des poches
sûr,
contrôlées par...
L'effet de la guerre, c'est-à-dire que le fait que un pays comme la France, par exemple, participe à la guerre du Yémen, c'est pas grave seulement sur le plan moral, c'est aussi grave sur le plan sécuritaire, puisque cette guerre va renforcer des ennemis de la France, c'est-à-dire des membres de Daesh ou des membres d'Al-Qaïda, qui ont aussi un agenda anti-occidental, global.
Mais pourquoi ? Parce que donc
c'est la fragmentation du territoire. C'est comme en Syrie. À partir du moment où on a un État failli, il y a plus de contrôle. Il y a une prolifération des groupes terroristes. Donc le discours américain simplificateur sur la menace iranienne permanente ne correspond pas du tout aux intérêts, même sécuritaires européens, au-delà de la question des droits humains qui est très importante. Mais sur le plan sécuritaire, je pense qu'il y a vraiment une conscience, hein, je pense, des milieux d'expertise en Occident sur le risque que fait peser au niveau sécuritaire la guerre du Yémen.
Hélène Lackner, à Londres, vous êtes d'accord avec cette analyse, la fragmentation du territoire, le fait que la trêve intervenue, en ce qui concerne en tout cas le port d'Hodeïda, reste fragile. Est-ce que tout cela fait de cette guerre au Yémen un conflit qui risque, hélas, de durer plus encore ?
Merci. Je suis d'accord avec la plupart de ce qu'ont dit mes collègues. Je dois dire que la question de la fragmentation du pays, je crois que c'est un élément très très important. Mais personnellement, je dois avouer que je considère que le rôle des djihadistes et des groupes terroristes est vraiment beaucoup plus petit que celui dont on parle la plupart du temps. Mais je suis à 100% d'accord sur ce que disait mon collègue sur le rôle de l'Iran. Et surtout pour préciser en fait que le rôle de l'Iran, même mon soutien militaire est extrêmement minime. Si on regarde les détails justement du rapport des experts des Nations Unies, il y a vraiment très très peu de choses qui viennent. Et surtout qu'ils ne viennent pas par Hodeïda, parce que l'excuse de la coalition pour le blocus de Hodeïda et pour empêcher la plupart des navires de nourriture et de fuel est principalement, leur excuse est que c'est pour empêcher les Iraniens d'envoyer des objets militaires par Hodeïda. Mais il n'y en a pas, il n'y a eu aucune preuve que quoi que ce soit ne soit jamais arrivé par Hodeïda.
Néanmoins, est-ce que vous pensez que les Houthis, donc il devrait y avoir une rencontre en Suède dans quelques jours, oui, oui, sous l'égide des Nations Unies.
Pour en venir à la situation de... Oui, maintenant...
Non, est-ce que vous pensez, ma question précise, est-ce que vous pensez que les Houthis sont prêts à une négociation?
Oui, je crois que les Houthis sont prêts à une négociation. Je crois que les Houthis se rendent parfaitement compte du fait que d'avoir tué Ali Abdallah Saleh l'année dernière n'était pas une bonne décision stratégiquement. Que en fait, ils ont maintenant le maximum de pouvoir qu'ils puissent avoir et que c'est vraiment le moment de négocier. Bon, quand je dis ça, en disant que certains Houthis pensent certainement ça. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ne le pensent pas. Je crois que dans quelques groupes que l'on est, il y a toujours des gens qui ont différentes opinions.
Mais il y a un chef Houthi qui d'ailleurs calque son comportement sur le chef du Hezbollah.
Ah oui.
Qui ne se montre jamais en public, il donne très rarement des interviews. Il a donné une interview, je crois, à la télévision du Hezbollah, mais c'est tout. Donc, il a une certaine autorité, ce monsieur.
Oh oui, tout à fait. Et lui, il donne des interviews. Il donne pas d'interviews, mais il parle à la télévision, ouais, en long, en large, mais pas tout à fait aussi longtemps que Nasrallah, heureusement. Donc, je suis sûre que cette fois-ci, je pense qu'il y aura une rencontre. Ça m'étonnerait qu'elle se passe aussi vite qu'on en parle, mais tout le monde, principalement à la suite de l'affaire Khashoggi, il y a eu suffisamment de pression sur l'Arabie Saoudite. Je voudrais aussi ajouter quand même ce que disait tout à l'heure Fatiha, c'est que les Émirats, en fait, veulent sortir de cette guerre beaucoup plus que les Saoudiens. Et d'autre part, les MBZ, il a plus ou moins obtenu ce qu'il voudrait au Yémen, c'est-à-dire le contrôle des ports.
Et alors, Alors justement, Fatia Azini, on arrive pratiquement à la fin de cette discussion. Expliquez-nous en quoi le contrôle des ports obtenu donc par le prince héritier d'Abu Dhabi est important. C'est parce que en fait, ça veut dire que cette route maritime qui est la plus névralgique du monde, hein, il y a tout le trafic pétrolier qui après remonte vers le canal de Suez. Donc ça va du détroit à la sortie du golfe Persique à l'autre détroit, donc près du port d'Hodeïda d'ailleurs, à la sortie de la mer Rouge. Donc là, c'est véritablement la route maritime la plus importante du monde pratiquement.
Oui, et puis donc jusqu'à la Corne de l'Afrique. Et c'est vrai, comme le dit Hélène, que la stratégie de MBZ est assez cohérente et plutôt bien pensée. Mais il n'empêche que cette stratégie, elle n'est plausible que grâce à la profondeur stratégique que lui permet sa relation très forte avec l'Arabie Saoudite. Il est évident que l'acteur clé historique en termes de présence historique au Yémen, c'est l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, on risque de voir à l'issue de pendant ces négociations, certaines lignes de fracture entre les deux principaux alliés de cette coalition, Riyad et Abu Dhabi, dans le sens où la stratégie du prince héritier, justement, de projection de puissance dans tous ses ports sur le pourtour du sud Yémen jusqu'à la Corne de l'Afrique, et même cette stratégie est même prolongée avec El-Sisi sur les bombardements en Libye, prouve que MBZ a absolument besoin d'une entente parfaite avec son allié saoudien. Ça ne peut pas se faire sans l'Arabie saoudite.
Alors cet allié saoudien...
Les Émirats sont plus pressés que l'Arabie saoudite de sortir de ce conflit. Je pense que les deux sont pressés. Il est évident que le prince héritier, qui avait imaginé un conflit très court et qui est totalement embourbé et pour lequel c'est extrêmement coûteux, alors qu'il est engagé dans un processus de transition et diversification économique de son pays, est aussi pressé que les Émirats d'en finir, hein, de sortir de ce conflit aussi.
Alors là...
Moi, je suis également, comme elle, assez optimiste sur une possible réussite de cette négociation en Suède.
La dernière question, Fatia, Fatia Daziani concerne évidemment la solidité du prince héritier saoudien. Mm-hmm. On voit qu'évidemment son grand rival, qui est le président turc Erdogan, qui a nourri ce feuilleton macabre autour de l'assassinat de Khashoggi depuis début octobre, ne lâche pas prise. Erdogan dit le plus grand bien du vieux roi, mais sous-entend, sans jamais le nommer, que évidemment MBS est responsable de l'assassinat, et c'est quand même ce que la CIA vient de laisser filtrer à Washington la responsabilité, ce qui semblait d'ailleurs évidente, étant donné la concentration des pouvoirs. Jusqu'à quel point, selon vous, qui connaissez intimement les rouages de ce pouvoir mystérieux, MBS est vraiment fragilisé, ou la nature même de ce pouvoir fait qu'il va échapper à cette énorme, il va survivre à cette énorme secousse?
Alors, il était extrêmement fragilisé par effectivement la pression extérieure qui s'abat sur lui, ça c'est clair. Mais sur le plan intérieur, il faut voir que MBS a réussi à créer aussi un peu le vide autour de lui, c'est-à-dire que ses adversaires immédiats, il n'en a pas. Hein. Il a réussi par son contrôle du pouvoir et aussi par le fait qu'il a séduit une grande partie de la jeunesse, par son volontarisme, son déterminisme, a donné, si vous voulez, une certaine fierté, un nouveau ton assez patriotique et nationaliste, d'homme fort, etc., ce qui a beaucoup, beaucoup séduit les jeunes. Et puis, en adressant cette vision 20-30 essentiellement à cette jeunesse, il a réussi un petit peu à ringardiser les autres et, bien sûr, avec sa méthode extrêmement radicale, à marginaliser ses deux principaux adversaires, à savoir son l'ancien prince héritier et son cousin Mohamed bin Nayef, qui reste quand même peut-être un challenger en cas en cas de plan B.
Mais qui a totalement disparu, qui a totalement disparu de la circulation depuis plus d'un an maintenant. Eh bien, merci à tous, merci à vous, Fatia Daziani. Votre dernier ouvrage que je recommande vivement, c'est chez Taillandier, l'Arabie Saoudite en 100 questions, et vous venez de le rééditer. Merci à Christine Beckerley de Human Rights Watch. Je vous conseille d'aller sur le site de cette ONG où vous trouverez toutes sortes d'informations importantes. Merci à Michel Zotowski qui était votre interprète. Je remercie Hélène Lackner depuis Londres. Vous avez récemment publié un ouvrage en anglais sur le Yémen à Saki Books. Merci bien sûr à Clément Terne. Votre dernière contribution à la revue Confluence Méditerranée sur le pivot russe au Moyen-Orient. Merci à Christophe Chabert. Les cartes à la radio, ça marche pas très bien, mais sur le site de notre émission, Mérine Moneghetti se fera un plaisir d'inscrire un certain nombre de vos cartes qui sont très parlantes pour comprendre ce qui se passe au Yémen. Merci bien sûr aussi à Eric Scholl, à Luc Jean Reynaud à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique, et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.